Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
priez sur nous.
Je vais dire la prière au Saint-Esprit. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait donné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Saint Joseph.
Priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin.
Priez pour nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, on en est toujours dans le traité sur la justice, hein, donc un traité assez long. Des questions 57 à la question 122. Je vais éteindre mon téléphone pour être sûr de ne pas être dérangé. J'ai oublié. Alors, nous en sommes, si je ne me trompe pas, nous en sommes à la question 64. Donc, il y a des questions sur lesquelles je vais passer très vite sur dans le traité sur la justice et des questions, au contraire, que je vais traiter plus longuement parce qu'à mon avis, ce sont des choses dont on a le plus besoin. Il y a des détails qui sont plus des détails techniques, par exemple sur les avocats, sur certains détails des jugements de justice, surtout du Moyen-Âge, qui, à mon avis, peuvent être passés assez rapidement, parce que ce n'est pas des choses qui sont très importantes pour nous dans le cours. Par contre, la question 64, elle est importante, donc de l'homicide. Hein, donc directement, qui regarde le cinquième commandement, « Tu ne tueras pas hein. ». Alors, c'est une question qui est très importante, surtout aujourd'hui, pour avoir les idées claires concernant, entre autres, la peine de mort. C'est là où on traite ces histoires-là. Vous verrez que les principes de Saint Pédis, les principes, pardon, de Saint Thomas d'Aquin n'ont pas pris une ride, hein, tout simplement parce que ce sont les principes de l'Église. Dans la théologie morale, on applique, si vous voulez, la théologie dogmatique à la vie de tous les jours. En théologie morale, on a vu toute une série de choses qui sont très importantes. C'est des questions qui regardent ces choses-là, pas simplement pour le meurtre, mais tout ce qui tourne autour du meurtre. Bon, il y a la peine de mort, l'avortement, et il y a aussi, par exemple, certains droits de guerre qui vont tourner autour de l'homicide. Par exemple, c'est intéressant d'étudier, même si ça fait froncer certains sourcils, d'étudier par exemple la légitimité du largage de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki sur le plan moral. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de vaporiser 200 000 personnes pour obtenir la paix? Et donc c'est des questions intéressantes et qu'on va pouvoir justement étudier avec la lumière des principes de Saint Thomas d'Aquin. Donc on a la question 64, donc est-il défendu de tuer tout être vivant? Donc, première distinction, par les temps qui courent, il faut les faire, parce qu'on entend tellement de bêtises sur le sujet. Les paroles « tu ne tueras pas » de notre Seigneur Jésus-Christ, donc les paroles du cinquième commandement donné à Moïse, ne doivent pas être étendues ni aux végétaux, ni aux animaux. Aux animaux, c'est-à-dire aux animaux sans intelligence, qui ne sont pas associés par la raison. Saint Thomas va citer Saint Augustin, je répète ses paroles. Donc les paroles « vous ne tuerez point » ne doivent pas être étendues ni aux végétaux, ni aux animaux, qui ne nous sont pas associés par la raison. Ça s'applique uniquement à l'homme. Hein, parce qu'avec les véganes et autres bêtises de ce genre, ben maintenant pratiquement ça va devenir une faute grave contre la justice républicaine de cueillir une fleur ou de manger un steak. Et donc, il faut encore une fois garder les idées claires sur tous ces sujets-là. Donc, le bon Dieu nous a dit que nous devions utiliser les créatures qui nous entourent autant que, pas plus que. Donc, c'est la grande règle de Saint Ignace de Loyola. C'est-à-dire, j'ai le droit d'utiliser les créatures qui m'entourent autant que ces créatures m'aident pour aller au ciel, ou autant que les bons dieux me les a donnés comme des instruments, par exemple, pour me maintenir en bonne santé, et je dois au contraire me couper de ces créatures, si ces créatures sont pour moi quelque chose qui m'entraîne loin du bon Dieu. Ça, c'est valable aussi pour les choses non intellectuelles, non raisonnables. Par exemple, je sais pas, prenez une bouteille de vin, par exemple, en soi, c'est pas un péché d'apprécier de bon vin, mais le péché il va intervenir au moment de l'usage déraisonnable de la boisson. Boire une bouteille, ça va, boire 10 bouteilles, ça va plus, parce que là, souvent, on tombe dans l'ébriété. C'est un peu la même chose pour tout. Donc, c'est ce que dit ici saint Thomas d'Aquin. Nul ne pêche en faisant servir les créatures à la fin pour laquelle le bon Dieu les a créées. Donc ça, c'est clair dans le livre de la Genèse que le bon Dieu a mis toutes les créatures qu'il a créées avant l'homme, c'est-à-dire surtout les animaux, les végétaux, les plantes, etc. Il a créé toutes ces créatures qui ne sont pas raisonnables au service de l'homme. Donc l'homme a le droit de les utiliser pour justement se maintenir en bonne santé. Donc, en portant nos regards, dit saint Thomas, sur la nature, nous voyons que les êtres moins parfaits existent pour les êtres plus parfaits. Les plantes pour les animaux pour l'homme. Donc on en réfère à bon droit qu'il est licite de détruire les plantes pour l'usage des animaux et les animaux pour l'usage de l'homme. Donc encore une fois, il faut aussi faire les différences qui doivent être faites. On ne peut pas mettre au même plan un arbre, par exemple, et un animal non raisonnable. Pourquoi ? Bon, parce que il y a trois niveaux, si on peut expliquer comme ça, il y a trois niveaux. Il y a le niveau végétatif, le niveau sensible et le niveau intellectuel. Bon. Donc, quand on parle d'une âme, en français, on désigne toujours l'âme raisonnable, c'est-à-dire l'âme intellectuelle. Bon. En fait, sur le plan philosophique, une âme, c'est le principe de vie. Donc, puisqu'un arbre est vivant, il y a une âme dans un arbre. Mais ce n'est pas une âme intellectuel. Bon, donc il faut pas, on peut pas mettre un plan d'égalité une âme végétative comme l'âme d'un arbre et l'âme d'un homme qui est une âme raisonnable. Donc c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on explique en philosophie. Donc quand on a une âme intellectuelle, une âme raisonnable, on a automatiquement aussi une âme sensitive et une âme végétative. Donc ça veut dire qu'il y a trois âmes dans l'homme. Ça veut dire que il y a une partie végétative dans l'homme qui va respirer, par exemple, qui va vivre une vie végétative, comme par exemple le chat ou comme par exemple l'arbre. Mais il y a en plus une partie de l'âme qui est une partie sensitive, là qui n'est pas commune aux arbres qui ne sentent rien, mais qui va être commune, par exemple, aux animaux comme un chat qui vont sentir quelque chose. Et en plus, il y a un degré supplémentaire pour nous, l'âme intellectuelle. Donc l'âme végétative est au service de l'âme sensible et l'âme sensible est au service de l'âme intellectuelle. Donc c'est une ineptie de donner les mêmes droits à une créature qui n'a qu'une âme végétative et une créature qui a une âme raisonnable. C'est l'erreur des naturalistes, des véganes et tous ces gens un peu déséquilibrés comme ça, donc qui racontent des bêtises énormes là-dessus, parce que si on prend les principes de ces véganes jusqu'au bout, il faut cesser de mourir de faim, plus rien à faire. À ce moment-là, il ne faut même pas respirer, parce qu'en respirant, l'air a peut-être certaines propriétés vivantes, donc on n'a pas le droit de respirer, parce qu'on va tuer les molécules d'air qui rentrent dans nos poumons. Donc c'est absolument ridicule. Vous voyez qu'il faut faire très attention dans ce domaine-là, de bien avoir les bases philosophiques. Donc qu'est-ce que dit Dieu quand il crée, avant de créer Adam et Ève ? Donc Dieu va d'abord créer, les premiers jours de la création, les différentes créatures, avec une âme végétative et une âme sensible. Bon, il y a une exception avec les anges qui, eux, ont une strictement parlant, on ne peut pas dire qu'un ange a une âme. Une âme, c'est un ange, si vous voulez, c'est un pur esprit. Donc, il n'est pas relié à un corps. Donc, un ange, en quelque sorte, c'est une exception. On peut dire qu'il a une âme raisonnable sans avoir d'âme végétative et sans avoir d'âme sensible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de corps. Bon. Donc, dans la hiérarchie, si vous voulez, des êtres créés par Dieu, donc tout à fait en bas, il y a les créations inertes, par exemple un rocher. Un rocher, c'est créé par Dieu aussi. C'est vraiment lui qui a créé le ciel et la terre, donc il a créé tout ce qui est sur la terre. Le sable, le rocher, c'est une créature de Dieu, mais c'est une créature qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de vie. Non. Après, au-dessus, il y a l'arbre, par exemple, ou la fleur qui a simplement une âme végétative. Au-dessus, vous avez l'animal non raisonnable, le chat ou le chien, par exemple, qui a à la fois une âme végétative et une âme sensitive. Encore au-dessus, vous avez l'homme qui a une âme végétative, une âme sensitive et une âme intellectuelle. Et au-dessus de l'homme, il y a l'ange. L'ange qui a en quelque sorte une âme, d'une certaine façon on peut expliquer comme ça, qui a une âme intellectuelle, mais qui n'a pas besoin d'un corps qui correspond à cette âme. C'est pour ça qu'après la mort, quand il y a séparation de l'âme et du corps pour un homme, l'âme va manquer de quelque chose, il manque quelque chose, il va manquer à cette âme le corps qu'elle a animé pendant toute la vie ici-bas, et donc il y aura à la fin des temps la résurrection générale de tous les corps, et les corps vont être réattachés en quelque sorte, si vous voulez, à l'âme qui les a animés pendant tout le temps de vie ici-bas, ce qui n'est pas le cas pour l'ange. Donc l'ange est au-dessus de l'homme. Pourquoi ? Parce que l'ange est au-dessus de l'homme. Pourquoi ? Parce que l'ange est un être spirituel, si vous voulez, qui n'est pas comme nous rattaché à un corps. Donc l'âme d'un ange, exactement parlant, c'est pas une âme, mais c'est pour expliquer les choses. Donc l'ange n'a pas besoin d'un corps, ce qui veut dire que l'homme est limité en quelque sorte dans son intelligence à cause de son corps. Pourquoi ? Parce que le corps de l'homme, est quelque chose qui le tire vers le bas. C'est pour ça que le système de compréhension de l'homme est un système très imparfait à cause de la présence du corps. Parce que l'homme, avec son âme, va comprendre ce qui se passe par l'intermédiaire des sens de son âme, de son corps. Donc il y a les cinq sens qui vont renseigner l'âme intellectuelle, le cerveau de l'homme, sur ce qui se passe à l'extérieur, et l'âme de l'homme va faire à l'intérieur d'elle-même, en quelque sorte, une image, va avoir une image de ce qui se passe à l'extérieur, ce qu'on appelle l'abstraction, système par abstraction. Donc, l'ange, au contraire, est largement au-dessus, parce qu'il n'a pas de corps. Donc il n'a pas besoin de passer par les sens, de toute façon, il n'a pas de sens. Il ne voit pas, il ne sent pas, il n'a pas besoin de voir et sentir. Donc l'ange, au contraire, va avoir un système de compréhension bien plus rapide, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, c'est le système intuitif. Il comprend les choses par intuition, donc 10 millions de fois plus rapidement que l'homme. Alors, quand Dieu a créé, après avoir créé les animaux, les plantes, les végétaux, les minéraux et les animaux, non raisonnables, Dieu a créé l'homme. D'abord Adam, puis Ève à partir de la côte d'Adam. Et ensuite, il va mettre à son service toutes les créatures non raisonnables. Donc, les créatures non raisonnables, que ce soit les créatures végétales ou les créatures animales, sont au service de l'homme. Bon. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Et souvent, les gens me disent, mais monsieur l'abbé, à ce moment-là, puisque un chat n'a pas d'âme raisonnable, donc c'est pas un péché, par exemple, de persécuter un chat. Ben oui, c'est un péché parce qu'on va contre la loi naturelle. D'accord ? Faire souffrir un animal sans raison, c'est un péché dans le sens que ça va contre la création du bon Dieu. Bon. Alors, c'est ici ce que va dire saint Thomas d'Aquin. Donc, le bon Dieu explique, le bon Dieu nous dit expressément qu'on a le droit d'utiliser toutes les créatures qui sont autour de nous, mais avec le contrôle de la raison. Bon. Et même au-dessus de ça, avec le contrôle de la foi. D'accord ? Donc, ce n'est pas un crime de tuer un être purement végétal si on en a besoin pour notre vie de tous les jours. Donc, c'est pas un péché de couper une branche d'arbre pour en faire un objet utile pour la consommation, etc. De la même façon, on a le droit d'utiliser évidemment les végétaux pour notre nourriture et on a le droit d'utiliser les animaux pour notre nourriture. Oui. Donc il faut faire un petit peu attention. Donc il y a parfois des bêtises qui sont dites chez certains traditionalistes, entre autres certains qui veulent absolument dire qu'il faut être absolument végétarien pour pouvoir aller au ciel. Bon, c'est complètement idiot. C'est pas un péché de consommer des animaux qui sont autour de nous, dans la mesure où ces choses sont bonnes et voulues par Dieu, et non pas une âme intellectuelle, une âme raisonnable. Donc, quand saint Thomas pose la question de savoir s'il est défendu de tuer un être vivant, en fait, là, il parle d'un être vivant avec une âme raisonnable. D'accord ? Donc, il est donc licite de détruire les plantes pour l'usage des animaux et les animaux pour l'usage de l'homme. Alors, la question va donc être ensuite expliquée par saint Thomas d'Aquin. Dans quelle mesure l'autorité civile politique d'un pays a-t-elle le droit de décider qu'une personne déterminée n'a plus le droit de vivre ? C'est le problème de la peine de mort. Bon. problème de la peine de mort. Et pour résoudre ces problèmes-là, ces difficultés-là avec du bon sens, il faut d'abord mettre le cœur dans la poche et puis le mouchoir par-dessus. Hein, parce que si on commence à réagir avec les sentiments, on n'a rien du tout. Et c'est comme ça que les médias en France, surtout, nous font croire n'importe quoi parce que justement, ils utilisent les sentiments. Bon. Non, il ne faut pas utiliser les sentiments, il faut utiliser notre intelligence. Bon. L'idée générale que va expliquer après saint Thomas d'Aquin, on va le voir dans les différents articles, et c'est que, de même, il va prendre une comparaison très simple, il dit de même que par exemple, un berger qui est en charge d'un troupeau, s'il constate qu'il a une brebis dans le troupeau qui a une maladie contagieuse qui va décimer tout le troupeau, il a le devoir de séparer cette brebis du reste du troupeau pour ne pas contaminer tout le troupeau. Bon. Et ensuite, s'il ne peut pas guérir cette brebis, eh ben, il faut la supprimer pour protéger le troupeau. Donc il va appliquer ça après au problème de la peine de mort. Alors d'ailleurs, il est très intéressant de voir, ça montre un peu la bêtise de beaucoup de gens, que tous les gens, en général, pratiquement tous, qui sont à fond contre la peine de mort, sont tous pour l'avortement. Et ce qui prouve que c'est de l'hypocrisie pure et simple. La peine de mort va leur faire pousser des gémissements absolument invraisemblables. Ils vont pleurer comme des madeleines. Hein, ces pauvres petits malfaiteurs qu'on va tuer, c'est pas bon. Il faut pas faire ça. Il faut être contre la peine de mort. Mais par contre, de couper en morceaux un bébé dans le sein de sa mère, ça leur fait ni chaud ni froid. Okay. Alors voyons un petit peu donc ce que dit saint Thomas. Donc, d'abord, il cite le livre de la Genèse, « Tout ce qui se meut et tout ce qui vit pourra vous sortir de nourriture, vous servir de nourriture. Bon. » C'est Genèse, chapitre 9, verset 3. Mais attention, encore une fois, « Tout ce qui vit pourra vous servir de nourriture, c'est uniquement les choses qui sont, les créatures qui sont inférieures à l'homme. » Donc, l'utilisation légitime, par exemple pour la nourriture, des animaux non raisonnables et des végétaux. Deuxième article, est-il permis de mettre à mort les malfaiteurs? Bon. Alors voilà donc le principe. D'abord, il cite l'Ancien Testament, vous ne laisserez pas vivre les malfaiteurs. Encore une fois, il ne faut pas prendre ces textes, il faut comprendre ces textes. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre à mort tous les malfaiteurs. Il doit y avoir des distinctions à faire entre les maux provoqués par les malfaiteurs. On ne va pas traiter de la même façon un malfaiteur qui a volé 20 euros avec un malfaiteur qui a assassiné 20 personnes. Donc, voilà ce qu'il va expliquer avec le principe que je viens de vous donner. Quand l'amputation d'un membre gangréné devient nécessaire pour le salut du corps, le médecin n'hésite pas à le pratiquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en principe, on n'a pas le droit de s'amputer. C'est interdit par la loi naturelle. On n'a pas le droit de se couper un bras ou une jambe. Cependant, si le bras est nécrosé et que cette nécrose va se développer, va envahir tout le corps, si pour sauver l'individu, le reste de l'individu, il faut couper un doigt ou couper un membre, on coupe le membre pour sauver l'individu. Donc une chose qui en soi était illégitime sans raison proportionnée devient légitime s'il y a une raison proportionnée. Voilà ce que dit saint Thomas. Lorsque les hommes qui sont dans la société, les parties d'un tout et les membres d'un corps entier deviennent dangereux pour la société elle-même, c'est une mesure louable et salutaire que de les frapper à de mort. On pourvoit par là la conservation du bien commun. C'est ainsi que s'exprime l'apôtre, il suffit d'un léger ferment pour corrompre toute la masse. Vous voyez, c'est le principe d'une pomme pourrie qui va détruire tout le panier de bonnes pommes. Alors dans le monde moderne, ils sont tellement bêtes qu'ils en finissent par croire, par exemple, que s'il y a une bonne pourrie, on va mettre plein de bonnes pommes à côté de la bonne pourrie, la bonté des bonnes pommes va agir sur la mauvaise pomme, et du coup, c'est la mauvaise pomme qui va devenir bonne à cause de l'influence des bonnes pommes. C'est complètement idiot, parce qu'on a appris que ça ne se passe jamais comme ça, c'est toujours l'inverse qui se passe. Hein. C'est la pomme pourrie qui va pourrir toutes les bonnes pommes. Donc, quand vous avez un panier de pommes, vous constatez qu'il y en a une qui est pourrie, qu'est-ce qu'on fait? On prend la mauvaise pomme et on la jette pour protéger le reste. On ne garde pas la bonne pomme, la mauvaise pomme dans le panier en disant avec un peu de chance, elle va arriver peut-être à avoir une bonne influence sur les bonnes pommes. Et, je veux dire, les bonnes pommes vont avoir une bonne influence sur la mauvaise pomme et tout va rentrer dans l'ordre. Mais non, c'est jamais comme ça que ça se passe. Encore une fois, le bon sens, c'est pas un péché. Hein. C'est absolument ahurissant de voir le manque complet de bon sens parce qu'en fait, il y a une raison surnaturelle à ça, c'est que quand on enlève le bon sens d'une société, le bon sens disparaît. Le bon sens de la société disparaît aussi. Alors, il y a certaines objections qu'il faut connaître. Donc, reprenons donc les principes. C'est-à-dire que s'il y a un membre gangréné, en soi, on n'a pas le droit d'amputer un membre d'un corps humain, mais s'il y a une raison proportionnée pour sauver le tout, on sacrifie la partie pour sauver le tout. C'est la règle. Bon. La même chose pour un troupeau avec une brebis contaminée. J'expliquais déjà les choses. Alors, quelques objections ici qui seront ajoutées dans le livre du Père Le Breton qui sont intéressantes. Première objection, le Seigneur défendit, il est vrai, d'arracher l'ivraie. Hein, donc l'ivraie, le bon grain, on constate qu'il y a dans le champ de l'ivraie qui pousse avec le bon grain. Et donc qu'est-ce que dit le maître du champ? Eh bien attendons, et puis quand le temps de la moisson va venir, eh bien, on va recueillir l'ivraie, mettre en gerbe et le brûler, et on gardera le bon grain. Bon. Alors voilà ce que répond le Père Le Breton. Le Seigneur défendit, il est vrai, d'arracher l'ivraie, mais dans quel but? Le but, c'est de ménager le froment. Nous supposons que la mort des malfaiteurs s'opéra sans que les gens de bien reçoivent aucune atteinte, et que loin d'être un danger pour eux, elle sera leur sauvegarde. Bon. Il est évident qu'il faut qu'il y ait une cause proportionnée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de pratiquer la peine de mort avec un malfaiteur s'il n'y a pas une raison proportionnée. Bon. Si un châtiment moindre suffit à régler le problème, on s'arrête au châtiment moindre. On n'a pas le droit de prendre, on ne va pas utiliser un bazooka pour détruire un moustique. C'est pas le même principe ici. Donc qu'est-ce que veut notre Seigneur Jésus-Christ? Notre Seigneur Jésus-Christ, là, il est cité dans le livre d'Ézéchiel. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux la mort du pécheur? Non, je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. Donc, le bon Dieu, on voit très bien dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose, il va frapper cependant certains coupables afin de délivrer les bons. Donc, la justice humaine imite en ce point la sagesse divine en condamnant à mort les méchants dont les crimes sont funestes à la société, et elle donne aux autres le temps de revenir à la vertu. Donc, on va faire, il y a différents degrés parmi les malfaiteurs, et bien, il est évident qu'on va utiliser du bon sens et la réflexion pour ne pas traiter tous les malfaiteurs de la même façon. Donc si la quarantaine suffit pour un malfaiteur, d'ailleurs de mettre en prison pendant un certain temps pour qu'il ait le temps de réfléchir, et que ça va le guérir pour qu'il ne recommence pas, on s'arrête là. Maintenant, si on se rend très bien compte que ça ne suffit pas, et que de toute façon, dès qu'il sera sorti, il va recommencer, il est évident qu'à ce moment-là, il faut prendre des décisions plus importantes. D'accord ? Alors, deuxième objection. Tuer un homme, c'est l'objection qu'on entend très souvent aujourd'hui, tuer un homme, dire à quelqu'un, est une chose mauvaise de soi. Bon, la réponse est toute simple. C'est vrai que tuer un homme qui se maintient dans sa dignité d'homme est une chose mauvaise de soi, mais tuer celui qui s'est mis par ses crimes au rang des animaux privés de raison, qui est devenu pire qu'une bête féroce, est un bien. On s'y dispose alors pour l'utilité des autres, selon cette parole, l'insensé servira au sage. Donc ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle la légitime défense en fait. Tout le problème de la légitime défense est ici posé, parce que c'est la base de la réponse, c'est la légitime défense. On n'a pas le droit de tuer le voisin, mais si le voisin attaque ma famille et est en train de menacer mon épouse et mes enfants dans leur vie, par exemple, j'ai le droit de descendre le voisin pour protéger mon épouse. Pourquoi? Parce que la légitime défense dit bien que charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon. Et donc, en règle générale, j'ai pas le droit de descendre le voisin. Si, par contre, c'est un détail, le voisin est en train de me voler mes salades, je vais pas aller prendre le fusil de chasse pour tirer sur le voisin parce qu'il me vole mes salades. Bon, si je faisais une chose pareille, là, je serais condamné avec raison pour meurtre. Pourquoi? Parce que c'est pas proportionné du tout. Bon, par contre, si le voisin, une personne qui est en train de, je sais pas, d'assassiner mes enfants, j'ai pas le temps de lui faire un grand discours sur la charité, je prends le fusil de chasse et je lui tire dessus pour protéger mes enfants, c'est absolument évident. C'est des choses évidentes qui malheureusement ne le sont plus dans le monde moderne, parce qu'il y a une tête pagaille. Alors, troisième article, voyez, on va voir que saint Thomas, justement, explique bien les distinctions qu'il faut faire. Est-il permis à une personne privée de tuer un malfaiteur? Alors, saint Thomas va répondre avec des principes qui n'ont pas pris une ride. Tuer un malfaiteur, dit-il, donc c'est l'article 3 de la question 64, donc qui est aussi sur le polycopier à la page 99. Vous avez un résumé des textes de saint Thomas d'Aquin, à la page 99, sur le polycopié, sous le titre « Question 64, article 2, est-il permis de tuer le pécheur ?» Bon. Saint Thomas va expliquer, tuer un malfaiteur n'étant une mesure licite qu'autant qu'elle se rapporte au salut de la société, ce droit n'appartient qu'au chef chargé du soin général de la communauté. Il faut avoir l'autorité pour ça, on ne peut pas s'instituer comme législateur universel quand on n'a pas l'autorité pour ça. De même, dit-il, il n'appartient qu'au médecin, à qui est confié le salut du corps entier, de retrancher un membre gangréné. En conséquence, les princes investis de l'autorité publique peuvent seuls frapper de mort les malfaiteurs. Les particuliers n'ont pas ce pouvoir, sauf cas de légitime défense, qui est une exception. Bon. Alors l'objection, on la trouve à propos d'un texte du livre des Deutéronomes, à propos du veau d'or. Donc Moïse proscrivit aux Israélites, prescrivit aux Israélites à l'occasion de l'adoration du veau d'or de tuer leurs amis et leurs proches. Bon, alors quelle est la réponse? Il y a un texte de saint Augustin qui répond très bien à cette objection. Celui qui exécute l'ordre d'un chef auquel il doit obéissance n'est pas moralement homicide. Il est comme le glaive entre les mains de celui qui s'en sert. Les Israélites donc agissaient d'après l'autorité de Dieu. Ainsi, le soldat frappe l'ennemi par l'autorité du prince, ainsi le bourreau exécute un criminel par l'autorité du juge. Pourquoi ? Parce que dans un cas comme ça, le bien de la communauté exige la mort même du malfaiteur. Donc, quand l'ennemi attaque injustement un pays, il est évident que le pays attaqué injustement a le droit de rassembler les hommes de guerre pour protéger le pays. Et si la seule solution pour protéger le pays, c'est de monter une armée qui va, hélas, devoir, par la force des choses, tuer l'ennemi, eh bien, c'est tout à fait légitime s'il y a une raison proportionnée. Ensuite, est-il permis aux clercs de tuer les malfaiteurs? Alors, les clercs, c'est-à-dire les clercs, ce qu'on appelle les clercs, c'est ceux qui ont la cléricature. Ce n'est pas forcément les prêtres. Les clercs, c'est tous ceux qui ont reçu la tonsure. C'est la tonsure qui fait la cléricature. Dans l'Église, si vous voulez, au niveau des hommes qui vivent dans l'Église, ils se divisent en deux, les clercs et les laïcs. Bon. Les laïcs, c'est ceux qui ont reçu la tonsure, et les clercs, ce sont ceux qui ont reçu la cléricature, c'est-à-dire la tonsure. La tonsure, c'est ce qu'on reçoit au début des séminaires. Donc l'évêque va, au supérieur du séminaire, va couper 5 mèches de cheveux du jeune qui va recevoir la tonsure, et ce qui le fait entrer dans la cléricature. Enfin, ce n'est pas encore une entrée définitive, il peut encore revenir en arrière. Après ça, il va recevoir les ordres mineurs, donc portier, lecteur, acolyte, exorciste, et c'est simplement au niveau du sous-diaconat que le retour en arrière est impossible. D'accord ? Mais l'Église a toujours exigé de ses clercs qu'ils ne répandissent pas le sang. Donc, le clerc, avant, c'était respecté dans toutes les armées qui avaient un peu de bon sens, donc le clerc était dispensé du service militaire. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et systématiquement, ils ont voulu, comme disait l'expression, mettre les curés sac au dos. Donc, ils ont exigé que pendant la guerre de 14 et la guerre de 39, que les clercs fassent aussi rentrent dans l'armée, bon, et à ce moment-là, tous les clercs, et surtout les prêtres, ont demandé à ce moment-là d'être dans le service de santé, et surtout dans le service des ambulances, avec des actes d'héroïsme extraordinaires de la part de ces prêtres qui sont allés ramasser les mourants, ramasser souvent les morts, parce qu'ils savaient d'ambulancier. Donc, je vous conseille beaucoup, pour ceux qui n'ont pas vu, lisez le petit livre magnifique du père Gaël, je crois que c'est son titre, c'est son auteur, sur les soutanes sous la mitraille, qui est magnifique. Donc, les clercs n'ont pas le droit de répandre le sang. Non. Donc voilà le texte de saint Thomas d'Aquin. Les clercs choisis pour le ministère des autels, où ils représentent la passion et la mort du Christ, qui était frappé mais qui ne frappait pas, comme s'exprime le prince des apôtres, saint Pierre, ils sont obligés de marcher sur les traces de leur maître. Tel est le juge du peuple, tels doivent être les ministres. Donc le prêtre, dans la pratique, quand on parle des clercs, bon, c'est surtout les clercs qui sont déjà dans l'ordre sacerdotal, mais strictement parlant, d'après le code de droit canonique, le clerc, c'est celui qui a reçu la tonsure. Donc, en plus de ça, ils sont investis du ministère de la loi nouvelle, qui ne prescrit pour châtiment ni la mort ni la mutilation. Pour ces deux motifs, ils doivent s'abstenir de donner la mort. Il y avait même des... avant, maintenant c'est un petit peu changé, mais avant il y avait même un code de droit canonique, un article du code qui expliquait bien que même les prêtres qui avaient dans leur vie civile, dans leur vie de laïque, avant de rentrer au séminaire, répandu le sang, ne pouvaient pas rentrer au séminaire. Bon, ça a été modifié après à cause des circonstances. Mais par exemple, un bourreau qui avait répandu le sang par ordre à cause de sa mission qu'il avait dans son métier, quoi, dans le système politique, eh bien, ne pouvait pas rentrer au séminaire. Vous voyez, bon, après, ça a été un petit peu modifié à cause de la modification de la société, mais il faut garder les principes. Cinquième article. Donc on voit très bien, on attaque le cinquième article, avec simplement les principes que donne saint Thomas d'Aquin ici, que la peine de mort est parfaitement légitime, encore une fois, à condition qu'elle soit instituée par l'autorité légitime et avec une raison proportionnelle. C'est-à-dire, en gros, c'est ce que ça veut dire, il faut qu'il y ait une cause proportionnelle, c'est-à-dire que la seule solution dans un cas comme ça, c'est de supprimer l'individu malfaisant pour protéger pour protéger l'ensemble de la population. C'est-à-dire, on met la partie au service du tout. C'est pas le tout au service de la partie. La partie, c'est la partie au service du tout. Donc, si la partie doit être supprimée pour protéger le tout, on doit le faire. Article 5. Donc, est-il permis de se tuer soi-même ? Donc, quand notre Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu nous dit « tu ne tueras point », c'est pas simplement tuer le prochain, mais aussi soi-même. Donc, le suicide a toujours été condamné par l'Église, et simplement avec ce commandement, on peut aussi condamner, bien sûr, l'euthanasie, qui a toujours été condamnée par l'Église, dans le sens qu'on n'a absolument pas le droit de se supprimer, même pour éviter des grandes souffrances, par exemple provoquées par un cancer, une maladie de ce genre. Alors, saint Thomas va expliquer donc les raisons qui démontrent que le suicide est une action absolument illicite. On dit souvent que le suicide est une action... les gens modernes pensent que le suicide est une action de courage de ceux qui veulent prendre la responsabilité. Au contraire, le suicide est la solution des lâches. Bon. Encore une fois, il faut distinguer... il y a suicide et suicide. Bon. Il y a suicide, personne qui décide de mettre fin à sa vie pour des raisons, par exemple, pour éviter les grandes souffrances. Et puis il y a des gens qui peuvent malheureusement se suicider parce qu'ils sont atteints de maladies. Il y a des maladies psychiatriques qui entraînent des tendances suicidaires très fortes. Il y a parfois des gens qui malheureusement se suicident sans qu'ils l'aient voulu. Il est évident qu'on ne va pas traiter tous ces gens de la même façon. Si l'Église catholique interdit la sépulture ecclésiastique à un suicidé volontaire, l'Église ne va pas l'interdire, par exemple, à quelqu'un qui est mort, qui s'est tué lui-même à cause d'une maladie. J'ai eu un cas comme ça, une personne que je connaissais bien, dans le nord de la France, qui avait une maladie, une tendance suicidaire, donc il était constamment en garde de protection, si vous voulez, pour le protéger dans un hôpital. Bon, puis les médecins ont pensé qu'il allait mieux, et donc ils ont laissé un peu sortir, et il se connut de cours d'une de ses sorties, qui est tombé dans une crise de suicide, et il s'est malheureusement supprimé lui-même. Bon, il était évident que dans un cas comme ça, l'épouse déplorait de voir en disant, monsieur l'abbé, la maladie a eu raison de mon mari, il vient de se suicider, est-ce qu'on peut quand même faire l'enterrement? Mais je dis, mais bien sûr qu'on va faire l'enterrement, c'est évident, tout le monde savait que votre mari était malade, c'est pas de sa faute s'il s'est suicidé. Bon, on met tout ça entre les mains du bon Dieu. D'accord? Alors, voilà donc ce que dit saint Thomas d'Aquin. Trois raisons principales, dit-il, démontrent que le suicide est une action absolument illicite. Premièrement, tout être s'aime naturellement lui-même et repousse celui qui veut lui ravir l'existence. Se suicider, c'est agir contre cette loi de la nature. Donc c'est un acte contre la nature. D'accord? Deuxièmement, l'homme appartenant à la société, comme la partie appartient au tout, se rend coupable d'injustice envers ses semblables en se donnant la mort. Troisièmement, la vie est un prêt qui reste soumis au pouvoir du souverain arbitre de l'existence des créatures. C'est-à-dire, notre âme ne nous appartient pas strictement parlant. Notre corps ne nous appartient pas non plus, strictement parlant. Alors, les objections sont un peu toujours les mêmes qu'on entend régulièrement de la part des gens du monde. Première objection, on dit que l'homme, en se suicidant, se soustrait quelquefois à un mal plus grand que la mort. Bon, c'est une erreur, tout simplement parce que la plus terrible misère de cette vie, c'est la mort elle-même. Donc se suicider pour échapper aux maux de la vie, c'est évidemment tomber dans un mal plus grand, pour échapper à un mal moindre. En plus de ça, on n'a pas autorité sur notre vie. On n'a pas autorité sur notre vie, et donc on n'a pas le droit de décider par nous-mêmes, sans qu'il y ait une raison, encore une fois, une raison proportionnée comme la peine de mort, on n'a pas le droit de décider de se supprimer pour éviter des souffrances très fortes provoquées par une maladie. Bon, en plus de ça, très très souvent, on le voit très bien quand on parle un peu avec des gens qui sont occupés de mourants, que beaucoup de gens qui savent qu'ils vont mourir, qui sont dans des souffrances très fortes, très souvent reçoivent des grâces du bon Dieu pour pouvoir se préparer à la mort et utiliser ces souffrances pour faire une bonne confession générale avant de mourir. Donc elles n'auraient sans doute pas faites s'ils n'avaient pas été morts dans une souffrance très importante. Donc en prenant la liberté de supprimer sa propre vie ou la vie d'autrui par l'euthanasie, c'est encore une fois hors le cas spécial de la peine de mort que j'ai déjà traité, il est évident que l'homme se prend pour Dieu. En se tuant soi-même pour un péché qu'on a commis, même on se prive du temps nécessaire à la pénitence. En se tuant pour éviter le déshonneur, on commet sur soi un crime plus grand que ne serait la fornication ou l'adultère, qui ne sont pas même des crimes pour une femme à laquelle on fait violence pourvu qu'elle refuse son consentement. Bon. Il y a eu quelques cas, attention, dans les martyrs des premiers siècles, de personnes, de femmes, qui dans des cas très particuliers, ont préféré justement choisir volontairement la mort plutôt que d'être exposées à l'outrage. Bon. Mais encore une fois, ce sont des cas d'exception voulus par Dieu dans des cas particuliers. Donc, le corps n'est souillé que du consentement de l'âme, comme s'exprimait Sainte Lucie. Se suicider dans la crainte de consentir au péché, c'est faire un mal pour en éviter un autre qui est moins certain, puisque dans une tentation quelconque, la grâce divine peut nous préserver du péché. Alors, il y a une autre objection, c'est le cas de Samson, des juges. Donc, Samson, qui, dans l'Ancien Testament, qui s'ensevelit avec les Philistins, qui avait une force extraordinaire, qui s'ensevelit avec les Philistins, donc ses cheveux avaient repoussé, sa force était dans ses cheveux, on lui coupe les cheveux pour pouvoir le faire prisonnier. Il avait été trahi par sa femme Dalila, et il va, ses cheveux ont repoussé, il va écarter avec sa force herculéenne qu'il avait les piliers du temple, pour que le temple tombe sur lui-même et sur les Philistins, pour que tous meurent. Bon. C'est un cas un peu spécial. Il ne saurait être regardé cependant comme exemple de faute, à moins que l'on ne suppose qu'il fut poussé à cette action par une inspiration secrète du Saint-Esprit qui lui faisait opérer tant de merveilles, ce qui est vraisemblablement le cas. Saint Augustin donc excuse ainsi plusieurs saintes qui, dans les temps de persécution, se sont donné la mort. Là, c'est des cas tout à fait particuliers. Donc le suicide donc, n'est en aucun cas une action noble et courageuse. Il est plutôt une véritable faiblesse de l'âme qui se laisse abattre par la vue des maux à souffrir. Et donc c'est là où, avant, les religieuses avaient un rôle extraordinaire dans les couvents, pas dans les couvents, dans les hôpitaux, et les hospices, où justement elles aidaient les gens qui étaient en fin de vie à se préparer à la mort. Combien de fois on a vu le travail des infirmières qui étaient à l'époque, au Moyen-Âge, étaient presque toutes des religieuses. Et donc, quand elle préparait le malade et qu'elle se rendait compte que le fruit était littéralement mûr, eh bien, elle allait chercher le prêtre pour que le prêtre puisse venir confesser la personne. Alors, sixième article, est-il quelquefois permis de tuer un innocent ? N'oublions pas que le meurtre de l'innocent est un péché qui crie vengeance contre le ciel. C'est un des péchés qui crie vengeance contre le ciel. Vous ne tuerez pas l'homme innocent et l'homme juste. Alors, il y a des distinctions qu'il va falloir faire, qui sont un petit peu délicates. On va essayer de les expliquer le mieux possible. Donc, voilà ce que dit Saint Thomas. à considérer l'homme en lui-même, il n'est jamais permis de le tuer. Car dans tout homme, sans excepter le péché, nous devons aimer la nature humaine qui vient de Dieu et que le meurtre atteint. Si on peut mettre à mort un malfaiteur, ce n'est, comme nous l'avons dit, qu'en égard au bien commun auquel il nuit par ses crimes. Encore une fois, on soumet la partie au tout. Or, la vie des justes conserve au contraire et accroît le bien général. Ils sont la partie la plus importante de la société. Aucune raison ne peut donc autoriser à tuer un innocent. C'est pour ça que le meurtre de l'innocent, l'exemple typique du meurtre de l'innocent, c'est l'avortement. Donc le crime de l'avortement est un péché qui crie vengeance contre le ciel. Un péché tellement grave qu'il est sanctionné par une peine d'avortement. Alors il y a une objection à laquelle il faut répondre. L'objection qu'on nous oppose en général, c'est l'histoire d'Abraham. Donc Abraham, à qui Dieu demande d'immoler son fils sur le sommet du mont Moria. Donc Abraham est pourtant loué d'avoir voulu tuer son fils innocent. Donc, Abraham, là, agissait sur l'ordre spécial de Dieu, qui est maître souverain de la vie et de la mort. Donc, Dieu étant créateur, a droit sur la vie et la mort. Parce qu'il est Dieu. Droit que nous, nous n'avons pas. Bon, alors il y a des cas un peu particuliers qui ne sont pas toujours faciles à régler. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, dans certains cas, de faire une action qui a deux effets, un effet bon et un effet mauvais, ce qu'on appelle le cas du volontaire indirect. Bon, ça, c'est des cas assez délicats, qu'il faut quand même, je vous donne un peu les principes généraux. Donc, un cas de volontaire indirect, c'est un cas d'une action qui a un double effet, un effet bon et un effet mauvais. Alors, dans quel cas a-t-on le droit de pratiquer cette action avec un double effet? Justement, est-ce qu'il y a des limites à ces cas? Ce qu'on appelle le cas de volontaire indirect. L'exemple classique, c'est une personne, une femme par exemple, qui est atteinte d'un cancer, un cancer de l'utérus, un cancer ovarien, et qui doit, pour protéger sa vie, subir une hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus, à cause de ce cancer. Bon, si on ne le fait pas, bien, le cancer va se généraliser, entraîner la mort de la personne. Bon. Or, cas qui arrive malheureusement, cette personne est enceinte. Bon. Deux questions. Donc, c'est un cas précis. Le médecin décide de pratiquer une hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus qui va avoir deux conséquences. Un effet bon, un effet mauvais. L'effet bon, c'est quoi? C'est la protection, l'arrêt du cancer, qui va être bloqué et rester dans l'utérus. Si on enlève l'utérus, il n'y a plus de cancer, la contrôle de la personne. Effet mauvais, la mort de l'enfant, évidemment. Bon. Alors, a-t-on le droit, par exemple, de tuer l'enfant directement pour protéger la mère? Réponse, non, parce que là, c'est un crime direct. Bon. Volontaire indirect, a-t-on le droit, s'il y a une raison proportionnée, si la fin est bonne, et si l'acte bon ne vient pas directement de l'acte mauvais, a-t-on le droit de pratiquer l'hystérectomie? La raison est oui. Parce que c'est un cas, il faut qu'il y ait une raison proportionnée. Ça veut dire qu'on ne peut pas attendre, c'est une urgence. C'est des cas assez délicats. C'est-à-dire, l'acte bon, c'est quoi? L'acte bon, la fin bonne, plutôt la conséquence de l'acte de l'hystérectomie, la fin bonne, c'est la protection du cancer. La fin mauvaise, c'est la mort de l'enfant. La protection contre le cancer, le fait qu'on arrête le cancer par l'hystérectomie, n'est pas provoquée par la mort de l'enfant. La mort de l'enfant est une conséquence indirecte, donc elle n'est pas directement voulue. Bon. Alors ça, c'est très important à comprendre. Et au séminaire, on l'avait expliqué avec raison, et ça fait hurler encore certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre ces choses-là. Les gens nous disent, mais c'est le même cas pour Hiroshima et Nagasaki. Donc la question qui se pose, est-ce que Hiroshima et Nagasaki, c'est-à-dire les États-Unis et l'Amérique qui décident de vaporiser deux villes du Japon, Hiroshima et Nagasaki, qui avaient d'ailleurs été soigneusement choisies parce que c'était des villes qui avaient une forte minorité de catholiques, et pour arrêter la guerre, en disant si on envoie une bombe de ce genre, une bombe atomique sur ces populations, la population est tellement paniquée qu'ils vont arrêter la guerre. Donc, il y a donc, on envoie une bombe avec deux effets, un effet bon, un effet mauvais. Quel est l'effet mauvais? L'effet mauvais, c'est la mort de 200 000 personnes. L'effet bon, l'arrêt de la guerre. Mais dans ce cas-là, l'effet bon, c'est-à-dire l'arrêt de la guerre, arrive par un acte qui est en soi mauvais. Ce n'est pas un cas de volontaire indirect. Donc la bombe atomique d'Hiroshima et Nagasaki est totalement immorale. Totalement immorale. On n'a pas, absolument pas le droit de faire une chose comme ça, justement à cause du fait que la fin bonne, si vous voulez, la fin de la guerre, vient parce qu'on fait quelque chose qui est en soi interdit, c'est-à-dire le meurtre de 200 000 personnes. C'est des cas qui sont assez délicats. Hein. Il faut connaître des cas comme ça en morale. On prend bien conseil pour ne pas faire de bêtises. Hein. En plus de ça, bon, pour Hiroshima et Nagasaki, il est très intéressant d'étudier vraiment l'histoire, la véritable histoire. Et quand on étudie l'histoire, c'est du meurtre pur et simple. Il ne faut pas oublier quand même que j'ai rien contre les Américains, mais enfin, les États-Unis sont quand même l'unique nation au monde qui a osé utiliser l'arme atomique. C'est la seule, à ma connaissance. Aucune autre nation l'a utilisé. Et il faut quand même comprendre les choses, c'est que savoir que Hirohito, l'empereur Hirohito japonais, avait déjà fait des demandes d'armistice, il avait compris qu'il avait perdu la guerre, en passant par la Russie pour obtenir un armistice. Et que c'est Truman, qui était président des États-Unis à l'époque, qui voulait absolument utiliser sa bombe atomique pour, si vous voulez, pour personnifier le pouvoir militaire américain, pour impressionner tout le monde par le pouvoir militaire américain, qui a voulu volontairement utiliser la bombe, non pas une fois, mais deux fois, alors qu'il n'y avait aucune raison militaire. Donc c'est vraiment un crime, un assassinat politique et des fins considérables. Vous voyez, encore une fois, quand on a des cas comme ça à juger, il faut faire très attention de ne pas juger avec les sentiments. Parce que si on juge avec les sentiments, on n'arrive jamais à avoir un jugement droit sur la chose. C'est très intéressant de voir encore une fois, vous voyez, que les gens sont totalement illogiques, surtout actuellement. C'est des choses qu'on constate, on n'y peut rien, mais c'est comme ça. Moi, j'ai constaté aussi, par exemple, que tous les gens qui versent, par exemple, des larmes de crocodile sur le massacre des bébés phoques, sur le massacre des baleines, sont tous pour l'avortement, tous. Il n'y a pas une seule exception à ma connaissance. Et pourquoi ? C'est intéressant, c'est la question qu'il faut poser. Comment se fait-il que tous les gens qui veulent, par exemple, qui ne veulent pas manger de viande, qui vont pousser des cris parce qu'on tue une vache pour la manger, pour manger un steak, sont comme par hasard tous pour l'avortement. Donc il y a bien une raison derrière. C'est cette raison qu'il faut les chercher. Et cette raison montre bien justement que c'est l'hypocrisie pure et simple. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est tout simplement détruire complètement la loi naturelle. C'est ce qu'ils font actuellement. Alors, article 7. Ça, c'est des questions plus faciles à régler parce que c'est le cas de la légitime défense. Donc, Saint Thomas d'Aquin n'a pas peur d'aller au fond des questions. Est-il permis de tuer quelqu'un en se défendant? C'est le cas de la légitime défense. Donc, rien n'étant plus naturel, dit Saint Thomas, que de défendre sa propre vie, on peut, d'après toutes les lois divines et humaines, repousser la force par la force en mesurant la défense à l'attaque. Attention, en mesurant la défense à l'attaque. User d'une violence sans proportion avec la fin qu'on se propose, ce serait sans doute un acte illicite. Mais repousser l'attaque avec une juste modération, c'est une défense très légitime. Vous voyez ? Évidemment, il y a des cas où c'est limite d'arriver à savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Le bandit part avec votre tiroir caisse, est-ce que vous avez le droit de tirer dessus ? La question peut se poser. C'est-à-dire, est-ce que c'est proportionné ? Est-ce que c'est proportionné? Votre femme se fait violer, est-ce que le droit de tirer sur le violeur pour protéger votre épouse? Un cas comme ça, la réponse est certainement oui. Bon, est-ce qu'on a le droit de tuer un malfaiteur qui vient de vous voler le tiroir caisse, qui a volé 1000 euros par exemple le tiroir caisse? Est-ce que c'est proportionné? La question peut se poser, à mon avis, là ça ne l'est pas. Vous voyez, encore une fois, c'est la règle, il faut proportionner l'usage de l'arme à la fin que l'on vise. Encore une fois, il ne faut pas tomber non plus dans les abus d'un côté comme de l'autre. Toutefois, dit saint Thomas, comme il n'est permis de tuer un homme que par autorité publique et pour le bien général, on doit se proposer la conservation de sa propre vie et non le meurtre de l'agresseur, à moins que l'on ne soit investi soi-même d'une autorité qui émane de la société, et qu'en tuant un homme pour sa propre défense, on le contribue au bien général, comme le soldat qui combat contre les ennemis de la patrie ou l'agent judiciaire qui lutte contre les voleurs. Les choses sont claires de ce côté-là. Voyez. C'est-à-dire que il faut toujours voir la même chose. C'est-à-dire, est-ce que la fin est bonne? Est-ce que la cause est proportionnée? Est-ce que l'intention est droite? C'est les conditions pour pouvoir utiliser le volontaire indirect, la loi du volontaire indirect. Est-ce que la fin est bonne? Est-ce que l'intention est droite? Est-ce que la cause est proportionnée? Et est-ce que l'acte, la fin bonne, ne vient pas directement par la fin mauvaise? Et on n'a jamais le droit de faire quelque chose qui en soit directement quelque chose de pécaminaire. D'accord? Enfin, dernier article de cette question 64, qui est une question très actuelle. Celui qui tue un homme par accident est-il coupable d'homicide? Bon, il est évident que pour être coupable d'un péché, il faut la connaissance et le consentement. Donc s'il y a matière grave, mais qu'il n'y a pas connaissance ni consentement, bon, il n'y a pas de péché. C'est le cas d'une partie de chasse, et puis un monsieur voit un buisson bouger, il pense qu'il y a un lapin dans le buisson, il tire, et puis il y a un enfant qui jouait dans le buisson, et il tue l'enfant. Bon, il n'a absolument pas voulu le meurtre de l'enfant. Il est évident que dans un cas comme ça, il n'y a pas de faute morale. Sauf s'il savait, attention, il y a parfois des enfants qui jouent, dans ce coin-là, donc faites attention à en tirer, commencez à être sûr que c'est bien un lapin et pas un enfant. La personne se dit, oh, ce doit être un lapin, je ne m'occupe pas de savoir si c'est un enfant, et qui tire quand même, là il est responsable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris les précautions nécessaires qui auraient dû être prises pour éviter un meurtre. Alors voilà ce que dit saint Thomas, on voit que les textes sont très clairs. Tout péché étant volontaire, les accidents comme tels ne sont point imputables. Cependant, un accident peut être volontaire indirectement. Ne pas prévenir les causes d'un meurtre quand on est tenu par devoir, c'est rendre à certains égards ce meurtre volontaire. D'accord? Par exemple, voilà ce qu'explique saint Thomas, un homme n'échappe pas au reproche d'homicide lorsque, se livrant à des actes illicites ou même à des occupations permises, sans prendre les précautions convenables, il donne la mort à quelqu'un. Il en est autrement, dit saint Thomas, de celui qui fait une action licite avec les mesures nécessaires pour prévenir tout danger. D'accord? Bon. C'est le cas aussi, par exemple, de certaines opérations qui sont faites par des chirurgiens à haut risque. Bon, est-ce qu'il y a une raison proportionnée? Bon, monsieur, voilà, vous avez un cancer, on va essayer de faire une ablation de la zone cancéreuse, mais il y a un risque énorme. Bon, à peu près 50 chances sur 100 pour que vous y restiez. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on tente cette opération? Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'un catholique qui est sur un lit d'hôpital, qui sait qu'il a un cancer terminal, et le médecin lui dit, voilà, si on vous enlève la zone cancéreuse, on a 50 chances sur 100 de vous sauver, mais il y a 50 chances sur 100, vous restez sur la table d'opération. Est-ce que c'est proportionné? Dans un cas comme ça, oui. Oui. Ici, il y a d'autres exemples qui sont donnés pour compléter par le père Le Breton, l'abbé Le Breton. Frapper par exemple une femme enceinte est une action illicite qui fait accuser un homme d'homicide lorsque la mort de la femme ou de l'enfant résulte. Alors, vous voyez que toutes ces questions sont quand même des questions importantes. Et on voit bien qu'elles n'ont pas pris une ride. Les principes de saint Thomas sont toujours là, qui sont les principes de l'Église. Il est évident qu'il y a des situations qui ne sont pas forcément faciles à régler, entre autres sur le plan militaire. Bon, par exemple, c'est le cas d'un pilote de bombardier qui a reçu l'ordre, par exemple, d'aller, il y a des cas comme ça très fréquemment pendant les guerres, l'ordre d'aller bombarder un pont pour empêcher l'ennemi d'utiliser ce pont et de venir envahir toute une partie du pays. Bon. Et à cause du climat, à cause de la météo, bon, il y a une fenêtre pour pouvoir faire ce bombardement qui est relativement petite en temps. Et donc, il reçoit des ordres pour lancer sa bombe à tel endroit précis, d'envoyer sa bombe à tel endroit précis. Bon. Et puis, au moment où il va envoyer sa bombe, il se rend compte qu'il y a des enfants qui jouent sur le pont, par exemple. Vous voyez ? Bon, c'est un cas de volontaire indirect. C'est-à-dire, est-ce qu'il a le droit de lancer la bombe? Il ne lance pas la bombe pour tuer l'enfant. Donc, il va lancer une bombe avec deux effets. Un effet bon, c'est quoi? Détruire le pont, empêcher l'ennemi de passer le pont. Effet mauvais, il y a des enfants qui jouent sur le pont. Bon. Donc, est-ce que le fait que le pont va être détruit, donc les faits vont obtenus, est-ce que ça vient de la mort de l'enfant? Non, la mort de l'enfant, c'est quelque chose d'accidentel par rapport à l'effet voulu. Il est évident que s'il peut attendre, bon, j'ai encore, la fenêtre est suffisamment longue, je vais faire un tour avec l'avion, revenir, en espérant que l'enfant sera plus en train de jouer sur le pont. Il doit le faire. Cependant, dans bien des cas, ce n'est pas possible, parce que le pilote, en parlant de la période de guerre, il dit, si je refais un demi-tour, je vais me faire descendre, et la bombe ne va pas être lancée. Oui. Donc dans un cas comme ça, c'est un cas de volontaire indirect. Oui. Par contre, on n'aurait pas le droit, pour impressionner l'adversaire, de tuer les enfants, simplement pour impressionner les adversaires qui aient peur de passer le pont. Parce que là, on agit avec une fin peut-être qui est bonne, mais en faisant quelque chose qui est directement interdit par la loi. Alors, de mon Dieu, à savoir le meurtre de l'enfant. C'est le cas, l'exemple classique, c'est la raison pour laquelle les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki sont absolument immoraux. Hein? Et donc, il faut faire attention à ces choses-là, parce que les gens modernes sont devenus tellement sentimentaux qu'ils réagissent avec le cœur au lieu de réagir avec les sentiments. Moi, je voyais très bien dans certains milieux, surtout aux États-Unis, c'était terrible. Par exemple, aux États-Unis, je me rappelle quand j'étais là-bas, cueillir une fleur dans un parc national, c'est presque un crime de lèse-majesté, quoi. Bon. Je suis tout à fait d'accord, il ne faut pas cueillir les fleurs dans un parc national parce qu'on conserve l'espèce qui est en danger. Très bien. Enfin, il ne faut quand même pas non plus transformer les choses et transformer un topinière en montagne. Vous voyez ? Et on le voit très bien, ce sont ces espèces de choses complètement farfelues qui sont en train de passer maintenant dans les esprits des gens et qui ne voient plus la gravité des choses. C'est-à-dire que pour eux, tuer un phoque ou tuer une baleine, même si c'est quelque chose qui est regrettable s'il n'y a pas de cause proportionnée, ça devient bien plus grave que tuer un enfant. Et là, on le voit très bien, encore une fois, pourquoi tous les gens qui sont pour la défense de ces animaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en soi quelque chose de mauvais, hein, comme par hasard, ils sont tous pour l'avortement. Pourquoi? Quelle est la raison derrière? Et c'est ça la question qu'il faut poser, à laquelle il faut essayer de répondre. Vous voyez. Alors, je conseille beaucoup à ceux qui comprennent l'importance de ces questions. C'est des questions qui sont très pratiques, éventuellement de relire, si vous avez la somme chez vous, donc lisez carrément directement le texte de saint Thomas et toutes les objections. Je n'ai pas le temps de couvrir toutes les objections, j'en ai couvert certaines sur la question 64 de l'homicide. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que saint Thomas, on voit très bien, conserve la hiérarchie des valeurs. Ça, c'est très important de comprendre. C'est-à-dire que là, il parle de l'homicide des corps. Mais il est évident qu'on peut reprendre la question en parlant de l'homicide des âmes. Et comme le spirituel est bien plus important que le matériel, donc tuer une âme, c'est bien plus grave que tuer un corps. Donc tout ce que vient de dire saint Thomas, si on l'élève au niveau surnaturel, on peut aussi faire toute une discrétion qu'on pourrait faire. Saint Thomas va la faire dans d'autres endroits de la Somme, on verra ça plus tard. Mais tuer une âme, c'est bien plus grave. Donc, encore une fois, on voit exactement les mêmes choses. Ici, par exemple, les gens qui sont, encore une fois, pour reprendre le même exemple que j'ai déjà donné, qui sont à fond contre les bébés, pour protéger les bébés phoques ou les petites fleurs dans les prairies, comme par hasard, n'auront aucun inconvénient à scandaliser les autres et détruire les âmes des autres. Voyez. Donc, si saint Thomas d'Aquin est déjà sévère dans ce domaine, avec raison, eh bien, il faut comprendre que saint Thomas la guise sera encore plus sévère pour les gens qui non seulement détruisent les corps, mais détruisent les âmes. Il dit notre Seigneur, ne craignez pas ceux qui détruisent les corps, craignez ceux qui détruisent les âmes. Parce que la destruction d'une âme, quelque chose de bien plus grave que la destruction d'un corps. Ce qu'on appelle le péché scandale. Le péché scandale, c'est quoi? C'est tuer l'âme du prochain par le mauvais exemple qu'on lui donne. Et c'est ce qui se passe maintenant partout dans le monde moderne. Donc, tous ces gens qui sont contre, qui vont absolument vouloir éviter des tas de problèmes matériels, se rendent même pas compte que tuer une âme, c'est bien plus grave que tuer un corps. Vous voyez? Et donc il faut vraiment se poser la question, une question très importante en morale, de savoir est-ce que je suis coupable de péché de scandale? Est-ce que par ma faute, des gens ont perdu la vie spirituelle? Si par ma faute, quelqu'un, par exemple, à cause d'erreurs que j'ai commises, d'erreurs volontaires, de péchés que j'ai commis dans le passé, par exemple, quelqu'un a perdu l'état de grâce à cause du mauvais exemple que je lui ai donné, si cette personne est malheureusement morte dans cet état de grâce, j'ai une responsabilité. Bon, le bon Dieu pardonne, attention, le bon Dieu a tout péché miséricorde. Donc, c'est pour ça que la confession existe, et que même des gens qui ont, hélas, détruit les âmes de beaucoup d'autres personnes dans leur vie passée, peuvent se faire pardonner par le bon Dieu, par une bonne confession, mais il faut comprendre les responsabilités, vous voyez. Et je crois que c'est très important dans ce domaine-là d'avoir des idées claires, parce que, encore une fois, dès que, très souvent, quand on aborde des problèmes de ce genre, on n'arrive même plus à discuter avec les gens. Je me rappelle, par exemple, le problème d'Hiroshima et de Nagasaki, c'était un problème qu'on ne pouvait pratiquement jamais aborder aux États-Unis. Quand dans les cours, j'ai essayé d'aborder ces problèmes-là, ensuite, les gens se montaient dans les tours tout de suite. On disait, mais mon père, vous êtes pour le Reich à ce moment-là. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que vous n'avez pas le droit d'annihiler 200 000 personnes, même pour une femme homme. La fin ne justifie pas les moyens. Et les gens étaient furieux quand j'expliquais ces choses-là. Ils me disaient, mais vous êtes anti-américain. Mais non, je ne suis pas anti-américain, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question de principe. De principe. Voyez. Et quand j'essayais d'expliquer que c'était Truman qui avait pris la responsabilité, alors qu'il savait très bien que les Japonais étaient prêts à arrêter la guerre, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. C'est pourquoi ? Parce qu'on sent très bien que ces gens sont bloqués par le fait qu'ils utilisent leur cœur, l'utiliser leur intelligence. Oui. Bon, on verra sur ces questions-là. Donc la prochaine fois, ça sera la question 65, c'est la mutilation. Donc ça, c'est assez actuel avec toutes les problèmes, par exemple, des greffes, le problème des implants, des tatouages, toutes ces questions-là qui sont des questions qui ont des conséquences morales assez intéressantes qu'on va pouvoir traiter avec tout ça. Alors attention, semaine prochaine, donc pas de cours, Nico, pas de cours mardi, pas de cours jeudi, ni de cours d'exégèse, ni de cours sur Saint-Thomas, parce que je prêche une retraite, donc il n'y aura pas de cours, prochain cours dans 15 jours. On va terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.